Alors, à mon tour, donc. Dans le cadre de cet hommage qui nous réunit autour de la voix narrative de Maurice Blanchot, et pour répondre à l'invitation qui m'a été faite de parler plus particulièrement de la fin des récits, je voudrais développer une réflexion selon un axe principal, essentiellement, qui sera celui de l'épilogue. Alors, le corpus sur lequel je m'appuierai, et vous venez d'entendre deux extraits, est celui qui est contenu dans ce livre-là, qui s'intitule « Après coup, précédé par le ressassement éternel ». Il s'agit là d'un groupement de textes dont on pourrait dire qu'il articule la dernière théorie et la première fiction. En effet, « Après coup », datant de 83, est en effet contemporain donc de la communauté inavouable, et « Le dernier mot et l'idylle », dont vous venez d'entendre les deux fins, ont été rédigés, eux, en plein cœur de Thomas l'Obscur, soit respectivement en 35 et en 36, avant d'être publiés une première fois en 47, puis republiés chez Minuit en 51, où ils sont donc retitrés globalement « Le ressassement éternel ». Je donne ou je redonne ces dates pour indiquer d'une part le grand écart temporel qui sépare le fictif du théorique, une cinquantaine d'années, dit Blanchot, un tout petit peu moins en réalité, et d'autre part pour mettre en évidence que l'articulation entre « après coup » et le ressassement éternel procède donc d'un trou, d'un blanc, d'un vide que nous enjambons allègrement lorsque nous lisons le volume dans son entier et d'une seule traite, alors que d'une certaine façon, dans ces 50 ans, se tient tout Blanchot. Par tout Blanchot, j'entends cette vie à l'œuvre dont parle Christophe Bidan dans sa quatrième de couverture, car pour cette conférence, je n'ai relu que les pages du bout. Rappeler que nous faisons un saut bio-bibliographique majeur quand nous passons du ressassement éternel à après coup, cela ne vise pas à inciter le lecteur à lire tout Blanchot et ou tout Bidan pour passer de l'un à l'autre. À ce compte-là, un texte comme « L'instant de ma mort » qui nous fait pareillement bondir par-dessus un demi-siècle 44-94, mais sans que soit ménagé matériellement un partage net et donc la possibilité de s'arrêter et éventuellement de reprendre un peu plus tard, eh bien à ce compte-là, un texte comme « L'instant de ma mort » serait parfaitement illisible, ce qu'il n'est pas, bien au contraire. Non simplement se souvenir qu'il y a coupe et raccord entre le ressassement éternel et après-coup, c'est se rendre sensible au montage qui préside à cette unité. C'est aussi cesser de distinguer, me semble-t-il, entre théorie et fiction et raisonner en termes d'écriture, ou mieux peut-être de réécriture, et précisément parce qu'entre la théorie et la fiction, pour se servir une dernière fois de ces termes, s'opère en permanence toute une série d'allers-retours. À preuve, et je m'écarte un tout petit peu ici d'après-coup, à preuve, telle phrase de l'entretien infini, page 256, sur la muraille, comme ce qui permet un rapport intersubjectif hors du rapport d'objectivation, que nous retrouvons telles quelles, ou en tout cas dans leur quasi-intégralité, dans le dernier homme. Ce que nous constatons alors, et ici comme ailleurs, c'est la circulation qui anime cette prose, et tenter d'en rendre compte, c'est se demander par exemple si le dernier homme ne serait pas aussi cette muraille ou semblable à cette muraille qui autorise de façon non autoritaire un entretien infini. Permettez-moi d'y insister, montage et circulation, et non pas mensonge et circularité. Ne pas confondre, c'est éviter bien des malentendus, et par suite, c'est se garder de jugements à l'emporte-pièce tels que ceci, Blanchot tourne en rond, Blanchot ne conserve que ce qu'il arrange. Non, Blanchot fait communiquer les espaces et les temps, et dans cette communication, Blanchot s'expose, ou plus exactement, il y a exposition de sa pratique d'écrivain. Et c'est de ça dont je voudrais parler. Prolongement, inflexion, bifure, emprunt, modification, etc. Ce qui peut se dire aussi de la manière suivante, et pour peu que l'on y prête attention, il y a un peu partout dans ce vaste tissu toute une série de reprises. Le phénomène n'est bien sûr ni nouveau en littérature, ni spécifique à la littérature, mais il nous concerne en ceci qu'il va nous permettre peut-être de mettre à jour un principe commun aux singularités ou à certaines des singularités qui s'observent dans quelques-unes des clausules blanchotiennes, des fins de récits de Blanchot. Donc j'ai déjà parlé d'épilogue et je précise un petit peu les choses en disant maintenant qu'il va donc être question de reprise, quoique sous des angles qui pourront changer, même si fréquemment ils se recouperont. Si vous le voulez bien, ouvrons ce parcours par une distraction, en nous penchant sur ce que Guy Laroux, dans l'étude qu'il a consacrée à la clôture romanesque, donne comme modèle canonique de l'épilogue. Ce sont les dernières lignes des Trois Mousquetaires de Dumas. Si, si. Les Trois Mousquetaires de Dumas. Donc voilà comment les Trois Mousquetaires de Dumas se terminent. D'Artagnan prit possession de son grade, Porthos quitta le service et épousa dans le courant de l'année suivante Madame Coquenard. Le coffre tant convoité contenait 800 000 francs. Mousqueton eut une livrée magnifique. Et de plus, la satisfaction qu'il avait ambitionné toute sa vie de monter derrière un carrosse doré. Aramis, après un voyage en Lorraine, disparut tout à coup et cessa d'écrire à ses amis. On apprit plus tard qu'il avait pris l'habit dans un couvent de Nancy. Bazin devint frère laid. Athos resta mousquetaire sous les ordres de D'Artagnan jusqu'en 1663. On comprend ce que James ait pu se moquer de cette distribution de prix épilogale, en y voyant plus la loi du genre, un cliché, un passage obligé, que des faits un tant soit peu utiles, sinon intéressants. Autrement dit, on décroche, si tant est qu'on est accroché jusqu'ici, on décroche. Et Blanchot, dès qu'il s'agit de happy ending, puisque c'est bien de cela dont il est question, l'épilogue distribution de prix serait un des ancêtres de ce happy ending, et Blanchot lui aussi décroche. En témoigne cette réflexion assassine qu'on a dans le premier tome à l'obscur. Les idylles se précipitaient comme à la fin des films dans les salles de cinéma non permanents. Et c'est la page 161. Cela prouve deux choses. D'une part que Blanchot allait au cinéma, et d'autre part qu'il s'y est certainement beaucoup ennuyé, comme le dit la Reine Mort à la page 115, et donc surtout à la fin des mauvais films, et de là peut-être que son idylle à lui, je parle du texte, et comme par rejet de tout niais idyllisme final, se termine mal. Blanchot dit comme par antiphrase. Mais je crois aussi qu'il lui arrivait de ne pas décrocher à la fin d'un film, à Blanchot, d'un bon film, comme en témoigne, à mon avis, ce clin d'œil que l'on a dans La Reine Mort, ce clin d'œil à Citizen Kane. Donc Citizen Kane sorti en 1946 en France et La Reine Mort publié en 1948, donc où l'on apprend qu'un des derniers mots de J est rose par excellence, et donc il est quand même difficile de ne pas entendre ici un écho au dernier mot du citoyen Kane, donc de Wells, à savoir, comme vous le savez, Rosebud. Mais peut-être est-ce le but du romancier ou du cinéaste de nous faire décrocher avant l'heure, pour faciliter la transition entre le noir et le blanc de l'ultime paragraphe, et ainsi atténuer le micro-traumatisme de la section finale. Retenons néanmoins de ce canon, les mousquetaires, de cet épilogue distribution de prix, qu'il exhibe, et peut-être mieux qu'un autre, la caractéristique générale de la portion conclusive, à savoir, et toujours selon Guy Laroux, celle du décrochage, justement, au niveau de l'énoncé, au niveau de l'énonciation. Voilà ce qui se passe généralement quand les choses se terminent, et voilà aussi ce à quoi on sent que les choses vont se terminer. On passe d'un plan à un autre, décrochage. Pour revenir à la cape et à l'épée, on passe des aventures au bilan, du roman à son code. Or, épiloguer, et selon la définition étymologique minimale qui sera la nôtre désormais, implique ce passage. Dire en outre, du grec epilegein, suppose en effet qu'une fin a déjà eu lieu et qu'après cette fin, dans une postériorité et dans une consécutivité, on passe à un ajout. Remarquons tout de suite que si, traditionnellement, ajouter postérieurement, cela permet d'assurer une postérité au personnage, une survie, dit Guy Laroux, et que si, toujours dans cette même tradition, ajouter consécutivement, cela permet de tirer les conséquences des actions, une instruction, dit Guy Laroux, c'est qu'il s'agit invariablement, me semble-t-il, de retendre fortement les liens entre ce qui s'est passé avant l'épilogue et ce qui se passera ou risque de se passer après l'épilogue. Sa fonction à l'épilogue est donc classiquement de nouer l'instruction à la survie, à celui qui a bien appris de son vivant, de ce qu'il a vécu, il sera donné de ne pas mourir. Telle serait l'épilogique, telle serait la suprême récompense attribuée, une suite aux trois mousquetaires, et il y a une suite aux trois mousquetaires. On s'en doute, ce n'est pas à Dumas qu'il faut penser lorsqu'on réfléchit aux épilogues blanchotiens, plutôt à Kafka, et j'y reviendrai. Mais ce détour me semblait nécessaire malgré tout pour prendre la mesure, si vous voulez, de ce qui se produit dans le récit moderne en général et dans celui de Blanchot en particulier. Disons pour faire vite que même si en surface, il y a des procédés techniques semblables, et en particulier quelque chose que l'on a très souvent à la fin des récits de Blanchot, un décalage, dont on pourrait dire que c'est un décalage entre la fin de l'histoire et la fin de la narration, celui qui ne m'accompagnait pas peut-être, la folie du jour sûrement, ou alors un changement de partie détaché clairement de façon textuelle, l'instant de ma mort où on a quelque chose en plus à la fin, l'attente l'oubli où on a quelque chose aussi en plus et en italique. Donc même si donc, en surface il y aurait certains signes distinctifs qui font épilogue, en profondeur, ce qui est interrogé, ce sont les conditions de possibilité de l'épilogal, selon un mouvement typique chez Blanchot, que D'Alembert nomme justement, je crois, la mise en abîme transcendantale dans son livre qui s'intitule Le récit spéculaire, donc sont interrogées ou réinterrogées les conditions de possibilité de cette parole supplémentaire, de ce codicille apporté au tout dernier moment, comme dit Blanchot dans Le Pas au-delà. D'où la question que nous nous posons souvent à la fin de ces récits, qui parle ? Ou plus exactement, qui peut ou ne peut pas encore parler ? Ensuite, ce qui est aussi remis en cause, c'est ce qui motive l'ajout, car il ne s'agit plus de tirer les conséquences et d'assurer une postérité, et encore moins du couple, idéologiquement tout de même un peu douteux, instruction-survie, mais de suspension du savoir et de vie dans ou de la mort. Et ce, et là j'en arrive au texte que vous venez d'entendre, dès l'idylle est le dernier mot. À propos de l'idylle, débutons en notant que l'on a bien un épilogue par décalage entre la fin de l'histoire et la fin de la narration. L'achèvement des péripéties est clairement thématisé dans les remarques ou les constats qui scandent les dernières pages. Pour l'arrêt du châtiment, alors je vous rappelle que à la fin de l'idylle, Alexandre Hakim, qui est donc le personnage principal de ce récit, se fait fouetter donc parce qu'il a voulu s'échapper de cette espèce d'hospice-prison. Et voilà ce que l'on a au bout du 10e coup de fouet, et c'est le directeur qui parle, le directeur de l'hospice-prison. « Voilà, c'est fini », dit le directeur, page 53. Ensuite est thématisée aussi la fin, lorsque Piotr dit, en parlant d'Alexandre Hakim, et en parlant donc du risque de décès encouru après ses coups de fouet, « S'il s'endort, dit Piotr, c'est la fin », page 54. Enfin, le trépas, et toujours le directeur qui parle, donc Alexandre Hakim est mort. « Oui, dit le directeur, c'est la fin », page 56. Alexandre Hakim mort, l'histoire, entendue comme chaîne événementielle, est finie. Certes, un chaînon manque dans cette chaîne événementielle, les dernières volontés de l'étranger, mais on atteint ici, si vous voulez, le terme du récit, et il n'est pas improbable, c'est en tout cas l'avis de Piotr, que ce que voulait l'intrus, c'était précisément de mourir, voire de mourir sans un mot. Pourtant, à ce terme du récit, et vous l'avez entendu tout à l'heure, on a un excédent, et c'est le paragraphe consacré à Louise et à la nature, qui, lui, mettra véritablement fin à la narration après avoir raconté donc, et décrit ce qui se passe ensuite, après avoir épilogué, après avoir ajouté. Et que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, c'est ce paragraphe sur le renouveau printanier, le miroir du printemps, page 56, et l'espérance. Blanchot écrit « Foi inébranlable » en parlant de Louise qui regarde ce ciel superbe et victorieux. Or, ce que je voudrais vous montrer, c'est en quoi cet épilogue est une reprise, et en quoi cette reprise est motivée, cela lui donne ses motifs et son moteur, par la suspension du savoir et la vie dans ou de la mort. Tout d'abord, ce qu'il est frappant de voir, c'est à quel point le personnage de Louise et celui d'Alexandre Hakim sont proches, et aussi dans ce contexte immédiat. À bien des égards, en effet, le double geste de Louise que l'on a à la fin, regarder le ciel superbe et victorieux, et comme si ce regard lui insufflait la force de poursuivre, se lever et retourner elle-même à sa position souveraine, quoique domestique, maîtresse de maison, ce double geste, donc, reprend le double geste d'Alexandre Hakim sur son lit de mort, qui braque ses yeux sur le directeur. Alors, je ne l'ai pas dit, mais en fait, Louise, c'est la femme du directeur. Donc Alexandre Hakim sur son lit de mort braque ses yeux sur le directeur, le narrateur y revient 4 fois, et comme si ce spectacle assez pitoyable en vérité d'un homme qui cherche par tous les moyens à connaître justement les dernières volontés de l'étranger, c'est-à-dire à connaître le fin mot de l'histoire, donc tout se passe comme si ce spectacle lui insufflait la force, je ne sais pas, ce n'est pas le bon mot, mais le poussait en tout cas non pas à se lever mais à soulever sa main pour adresser un signe à cette autre figure d'autorité, Dieu, dictateur, mais figure d'autorité ici impuissante, qui est donc celle du directeur, signe que le vieux interprétera, qui est un autre personnage, interprétera comme suit, « Taisez-vous », et il parle au directeur, « Taisez-vous », dit rudement le vieux, « Maintenant il ne veut rien du tout, il va dormir ». Je retiens de cette reprise d'un même double geste, regard élevé, l'idée que dans les deux cas, on suppose que la levée répond au regard sur les modes de l'affront, l'abdication, la concession, l'ironie du sort, mais que la modalité exacte de cette réponse demeure matière à interrogation. Ce qui est donc repris dans l'épilogue, c'est la fondamentale ambiguïté d'un répondant. Alexandre Hakim comme Louise ont du répondant, et ils répondent, et ils se répondent, mais que répondent-ils et que se répondent-ils ? On ne peut pas le dire avec exactitude, ce en quoi nous en savons est suspendu. Mais c'est cela même, cette suspension du savoir, qui fait que l'épilogue reprise n'élucide pas mais rejoue, ne boucle pas mais renvoie, ne révèle pas mais relance. Il est construit par et pour ces résonances. Et il faudrait comparer en effet ici attentivement toutes les cérémonies de l'idylle, et l'on verrait comment, du début à la fin, les funérailles sont mêlées aux fiançailles, de telle manière que cela semble être une espèce de coutume de la maison, que de porter le deuil et de, en même temps, se réjouir d'un mariage. Et la post-fin, l'épilogue, résonne encore de ce mélange avec, je le répète, la foi inébranlable mêlée à la mort et aux larmes. Mais ce qu'elle fait résonner surtout, c'est que l'intégration de la structure, l'intégration de l'étranger dans la structure, est peut-être à ce prix. L'étranger devient un familier dès lors qu'il se tue en prenant une épouse, ce que disait déjà à peu près la page 47. Au pied de la lettre, c'est bien ce qui arrive à la fin du récit. Alexandre Hakim n'a peut-être jamais été aussi bien assimilé que lorsqu'il est ce défunt mari, ce regretté fiancé, pour lequel on a le catafalque et les fleurs toutes prêtes. Première variation donc sur le thème de la vie dans ou de la mort, l'étrangeté familière est celle dont on célèbre ensemble fiançailles et funérailles. Mais encore faut-il y croire. Et il n'est pas impossible que dans le fond, le problème que pose sans le résoudre l'idylle soit précisément celui-ci, la croyance. Autre suspension du savoir donc, peut-être croit-on lorsqu'on laisse en suspens ce que l'on sait. « Si je me marie, disait Alexandre Hakim, si je me marie, il parle à Louise, la femme du directeur, dont on ne sait pas si entre Louise et le directeur il y a une idylle ou pas, bon, si je me marie, c'est parce que je crois en votre bonheur. Le désespoir, les tourments mutuels, la haine que vous vous portez, les expiations qui vous blessent, chacun peut les voir, mais moi, je ne vois que votre amour. Et je trouve heureuse la vie où une telle idylle a pu s'épanouir. » À quelques mots près, je crois que Louise, à la fin, dans l'épilogue dont je parle, pourrait contresigner ce « vouloir y croire ». Et il n'est pas sûr d'ailleurs qu'Alexandre Hakim y croit jusqu'au bout. Elle pourrait donc contresigner Louise, je crois, ce « vouloir y croire », peut-être parce que, comme Emma Bovary, elle a lu beaucoup de livres. Ce matériel thématique, la vie dans ou de la mort, présent ici sur des registres et des tons, alors on pourrait parler de symbolisme un peu appuyé, même de pointe de cynisme, et on pourrait parler aussi d'actes de foi problématiques si on repense à l'épilogue de l'idylle. Donc ces thèmes qui sont présents ici sur des registres et des tons qui ne seront plus ceux de Blanchot par la suite posent cependant les éléments, et de manière étonnamment prémonitoire, de ce qui sera, on le sait, l'une des préoccupations centrales de Blanchot. À vrai dire, lequel de ces ouvrages n'est pas préoccupé, inquiété par ce vivre du mourir qui ne peut laisser que ce que nous en savons en suspens. Et à commencer par après-coup, à sa manière une sorte d'épilogue de l'épilogue, qui revient sur ce dernier paragraphe de l'idylle et le commente comme suit. L'errance, en particulier celle d'Alexandre Hakim, ne s'interrompt pas lorsque l'on s'arrête d'errer, c'est-à-dire lorsque Alexandre Hakim est mort. La négation la plus totale de l'altérité ne la supprime pas. Une affirmation se fait jour dans la plus noire obscurité, etc. C'est la page 99 d'après-coup. Je ne m'étends pas là-dessus, mais j'aimerais néanmoins donner, si vous voulez, une portée un peu plus grande, à l'épilogue de ce point de vue. Maurice Blanchot est celui qui aura eu la chance de pouvoir épiloguer. Débarrassons-nous tout de suite des connotations péjoratives du verbe pour, à nouveau, ne retenir que dire en outre, ajouter. Oui, la chance de pouvoir épiloguer, même si chance et pouvoir ne conviennent pas, disons la responsabilité, la tâche, l'obligation, ressentie le plus souvent dans la douleur et la peine, de raconter et de décrire ce qui s'est passé après, ensuite, après les coups mortels qui l'ont frappé et auxquels il a survécu. Erreur médicale, et là je vous renvoie aux pages 78 et 80 de La Reine Mort, où Blanchot nous dit que le médecin l'enterre tous les jours. Blanchot, cette personne avec un X dessus. Donc, erreur médicale, c'est dans La Reine Mort, page 78-80. Exécution sommaire, c'est toute l'histoire de l'instant de ma mort. Disparition des amis intimes, et on l'a entendu aussi tout à l'heure. Vous pouvez trouver ça, par exemple, dans La Folie du jour, à la page 10. De là que l'épilogue, et je le dis trop vite, soit aussi à considérer dans sa dimension existentielle, bien sûr, éthique, politique, historique, et pas seulement philosophico-littéraire et métalinguistique. De là aussi, si l'on veut bien envisager encore un moment cette hypothèse d'un Blanchot épiloguiste, Qu'il soit si régulièrement, ce Blanchot-là, hanté par un point, le désastre, l'expérience inéprouvée, qui porte un coup au logos, au discours raisonné, à la discursivité, au raisonnement, coup dont on ne prend conscience que dans l'après-coup, que dans l'épilogos. Épilogos qui reprend, c'est-à-dire non pas qui prend à nouveau, ou alors s'il prend à nouveau, il prend un nouveau frais. Il écrit et il réécrit dans le même temps. Il répète et il fait différer dans le même temps aussi. Ou alors au sens où, et c'est peut-être celui-là qui me semble le plus approprié ici, au sens où l'après-coup fait retentir le coup. Donc, dans l'après-coup, retentit le coup. Reprendre, de ce point de vue-là, ce serait donc faire retentir. Voilà, je crois, ce qui motive et aussi ce dont les conditions de possibilité sont interrogées. Le retentissement. Comment ne pas songer, se demande Blanchot dans Après-coup, justement, que dans l'idylle et dans le dernier mot, retentissent les présages meurtriers des temps futurs, et il pense ici à Auschwitz. Comment ne pas songer que, voilà une construction à double détente, il est possible d'y songer, et Blanchot y songe, et nous y fait songer. Il contribue donc à ce retentissement qui bouleverse la chronologie. Mais en même temps, il faut entendre que cette possibilité est possible sur fond d'impossibilité. Comment ne pas songer ? Dans quelle mesure peut-on ne pas lire ce qui a précédé en fonction de, à la lumière de, ce qui a suivi ? Et ici, le retentissement est touché dans ses prétentions explicatives et perspectivistes. Comment ne pas songer ? Si c'est peut-être là le principe qui sous-tend l'épilogue retentissement, c'est donc à une distance critique qu'il nous invite. Du dernier mot, ce que Blanchot prélève dans la distance critique qui est la sienne, c'est l'Ilia lévinassien. Voilà ce qui serait le dernier mot, ce qu'il y a encore quand il n'y a plus rien du tout. Une rumeur, un souffle, un clapotement, un processus interminable dans le terme et ressassement et éternité, dit Blanchot à la page 95 d'après-coup. L'Ilia est donc un terme, un mot et une fin, dans lequel retentit l'interminabilité d'un silence et d'un infini. Je laisse ouverte cette piste ici, mais je remarque seulement qu'en intitulant en 51 « Le ressassement éternel », ces deux premiers récits, Blanchot d'une part tire l'idylle du côté du dernier mot et d'autre part met en place les premiers jalons d'une lecture, disons, lévinasso-blanchotienne de ces textes. Mais j'en reste à la première mouture. Il faut que je vous explique clairement les choses, dit un moment le jeune homme du dernier mot, du récit qui s'appelle Le dernier mot, le jeune homme donc qui est le personnage principal de ce récit, qui à un moment rencontre une femme, ou plutôt bute sur une femme. Et voilà ce qu'il lui explique. Il faut que je vous explique, et on est juste un petit peu avant la fin, il faut que je vous explique clairement les choses, dit le jeune homme à la jeune fille. Jusqu'au dernier moment, je vais être tenté d'ajouter un mot à ce qui a été dit. Et donc là, on voit que l'épilogue est aussi une tentation. Jusqu'au dernier moment, je vais être tenté d'ajouter un mot à ce qui a été dit. Mais pourquoi un mot serait-il le dernier ? La dernière parole, ce n'est déjà plus une parole, et cependant, ce n'est pas le commencement d'autre chose. Je vous demande donc de vous rappeler ceci pour bien conduire vos observations. Le dernier mot ne peut être un mot, ni l'absence de mot, ni autre chose qu'un mot. Ni. Ni un mot, ni autre chose qu'un mot. Pour ne pas être tenté d'épiloguer comme le font les discuteurs dont parle l'entretien infini à la page 478, c'est-à-dire ceux qui ajoutent, mais ou bien pour avoir le dernier mot, ou bien pour se payer de mots, il faut se maintenir dans ce va-et-vient neutre, ni, de la reprise du coup dans l'après-coup, ce que ne fera pas le jeune homme, précisément, qui, lui, lorsque, à la fin du récit, il rencontre ce maître qui est peut-être une incarnation de Dieu, du Tout-Puissant, du propriétaire, bon, lorsque à la dernière et qui est dans une tour dont Blanchot nous dit que c'est peut-être la tour de Babel, donc lorsque le jeune homme rencontre ce maître-là, il reste sur le coup, justement. Il tombe sous le charme et il succombe devant ce Dieu maître propriétaire, de sorte que son dernier mot est plus une espèce d'illumination mystique qu'une distance critique. Quelle voie est-ce possible ? Et c'est le dernier mot du jeune homme. Du côté de la jeune femme, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui apparaît aussi à la fin, du côté de la jeune femme qui, elle, a plus le sens des réalités, Elle dit donc, hélas, vous l'avez entendu tout à l'heure dans la lecture Pierre-Antoine, hélas, et là, c'est à ce moment-là, le Dieu maître la tient dans ses bras, lorsque la tour s'écroule, hélas, dit-elle à ce Dieu maître, hélas, ne sentez-vous pas que le sol nous manque ? C'est son dernier mot. Mais elle aussi se laisse prendre au piège par ce Dieu maître propriétaire, gardien et garant de la métaphysique, qui parvient à la rassurer malgré tout, et qui parvient à la faire taire en serrant contre lui cette créature plutôt physique, au moment où la tour s'écroule. Pour elle aussi, donc, pas de dernier mot après coup. Pourquoi parler d'épilogue alors, tout de même, dans le dernier mot ? Eh bien, parce que, en réalité, à la fin de ce récit, on a une espèce d'incohérence qui, comme toute incohérence, est passionnante. À la différence de l'idylle, le dernier mot nous narre ce qui se passe du point de vue du personnage principal, le jeune homme, et à aucun moment cette focalisation interne n'est perturbée. Bon, on voit les choses du point de vue du jeune homme. En réalité, il y a peut-être une petite perturbation, mais c'est pas l'essentiel. Donc, à aucun moment, cette focalisation interne, si vous voulez, n'est perturbée. Sauf que, dans l'avant-dernière page, page 80 que vous avez entendue tout à l'heure, on a un brusque revirement de situation d'énonciation à la fin, et là, ça ne tient plus. Alors, je reprends mal la lecture qu'a fait Pierre-Antoine tout à l'heure. Et nous, donc là, il s'agit du jeune homme qui est avec le maître de la tour. Et nous fûmes liés de telle sorte qu'il se vit obligé, il s'agit du maître de la tour, qu'il se vit obligé pour redevenir lui-même de me dire « Je te berne, car je ne suis qu'une bête ». Mais sur cet aveu, je redoublais d'adoration, une espèce de crise religieuse de la fin des temps. Je redoublais d'adoration et à la fin, et là vous voyez qu'on a à nouveau une thématisation de la fin de l'histoire dans l'idylle, et à la fin, il n'y eut plus l'un auprès de l'autre qu'un triste animal gardé par un serviteur qui en écartait les mouches. Un rayon de soleil, dressé comme une pierre, les enfermait tous deux. Et là vous voyez, le tous deux, on a un changement d'angle. Ça ne peut pas être le jeune homme qui nous parle. Bon. Un rayon de soleil dressé comme une pierre les enfermait tous deux dans une illusion d'éternité. Ils, au pluriel, jouissaient béatement du repos. Ce fut la femme, et la reprise de la narration, épilogue donc, ce fut la femme qui, au comble de l'inquiétude, vint les éveiller, mais il la rassura par sa tranquillité. Donc c'est le maître qui rassure la femme à la fin, mais il la rassura par sa tranquillité, et quand la chute de la tour les précipita au dehors, ils tombèrent tous trois, sans dire un mot. Vous l'avez donc vu, entendu, j'espère, on a un débrayage à la fin, la narration de l'épilogue n'est plus embrayée sur le point de vue du personnage principal, et d'une certaine façon, et c'est ça qui me frappe, d'une certaine façon, ce qui est raconté, ensuite, ce qui est dit en outre, ce qui est ajouté, cela part en roue libre. Bon. D'où la question qu'on ne peut pas manquer de se poser, qui parle ? Qui peut ou ne peut pas encore parler ? Avant de répondre à cette question, je remarque que c'est précisément cette question que Blanchot pose et se pose dans Après-coup. Quel est ce narrateur, se demande-t-il en effet, qui, alors que la catastrophe est complète, quoique sans fracas, quel est donc ce narrateur qui, je cite Blanchot, a gardé le privilège de l'ego ? Et Blanchot résout l'énigme, ou plutôt il suggère cette piste qui est d'interpréter le récit dans le mouvement d'un prophétisme. Ce que l'on vient de lire serait en fait une espèce de projection, peut-être de la science-fiction. Pour ma part, je vais essayer de suivre un autre chemin. Ce qui se passe dans cette fin de récit, ça n'est pas un deus ex machina, ça n'est pas l'apparition impromptue et salvatrice sur scène d'un narrateur, mais seulement sa découverte. On découvre, à la fin du dernier mot, qu'il y avait un narrateur qui en réalité était là depuis les premiers mots, mais qui était d'une certaine façon recouvert, si l'on veut, par le point de vue du personnage principal, qui semblait à lui tout seul, donc comme je le dis tout à l'heure, assumer la narration. Mais surtout, ce qui se passe dans cet explicite, avec cette dissociation personnage principal-narrateur, c'est la désubjectivation de la voix narratrice. Je reprends ce que disait Christophe Bidan tout à l'heure, donc la voix narratrice, c'est-à-dire cette voix qui enchaîne les événements les uns aux autres. Et là, je m'appuie sur les travaux d'un linguiste qui s'appelle Forster, qui a montré qu'en fait, pour qu'on ait histoire, il suffit qu'on ait le roi mouru et puis la reine mourue. Et ça, ça fait une histoire. Pourquoi ? Parce qu'on a un « et puis ». Donc la voix narratrice, c'est celle qui enchaîne les événements les uns aux autres, avec des « et puis », entre autres. Donc on a une désubjectivation de cette voix narratrice-là et l'émergence, ou plutôt la découverte, de la subjectivité sans sujet de la voix narrative, celle qui, et pour ce qui nous intéresse ici, dit « en outre », ajoute, « épilogue ». Et ici, on pourrait s'appuyer sur les travaux d'une autre linguiste qui s'appelle Anne Benfield, qui, elle, justifie linguistiquement l'existence de phrases sans parole dans le récit, d'expressions désolidarisées du schéma communicationnel. Et ce qu'il faudrait simplement ajouter, c'est que Blanchot, c'est justement sur ces phrases sans parole, d'une certaine façon, qu'il fonde ou qu'il refonde la communication. De sorte qu'on le voit bien dans le dernier mot, sont interrogées, quoique de façon discrète, les conditions de possibilité de l'épilogale dans cette fin de récit qui, la première, pose clairement la question de la source énonciative. Ce qu'elle fait retentir, cet épilogue ou cette fin de récit, c'est la distance critique, le neutre, le « il » dans le jeu qui parle quand personne ne parle. Pour finir d'un mot sur l'épilogue, et peut-être pour ouvrir sur autre chose, je voudrais passer par Kafka, comme je le disais tout à l'heure. On l'a déjà remarqué souvent, Blanchot a certainement présent à l'esprit les derniers mots du procès de Kafka quand il termine Thomas l'Obscur. Tant la ressemblance est frappante, en effet. Kafka, comme un chien, donc on est à la fin du procès, K vient de se faire égorger. Et il dit encore, « comme un chien, dit-il, comme si la honte dût lui survivre. » C'est la fin du procès de Kafka. La fin de Thomas l'Obscur, Thomas aussi regarda ce flot d'images grossières, peut-être pornographiques d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'hommes étoiles qui se dénudent voluptueusement. Donc Thomas aussi regarda ce flot d'images grossières, puis quand ce fut son tour, il s'y précipita. Mais tristement, désespérément, comme si la honte eût commencé pour lui. Avec cette espèce de mini-épilogue du « comme si », que l'on a aussi d'ailleurs dans Aminadab, le dernier mot d'Aminadab, c'est « qui êtes-vous » dit-il de sa voix tranquille et convaincue. Et c'était comme si cette question allait lui permettre de tout tirer au clair. Donc avec ce mini-épilogue du « comme si » qui fait épilogue, donc cette espèce de petit ajout mi-cinglant, mi-grinçant qui joue ici de la reprise, qui est donc une reprise d'une reprise, hein, vous l'avez compris, puisqu'il y a Kafka derrière, hein, donc qui joue de la reprise comme d'une espèce de ressort, de lanceur, de catapulteur vers un ailleurs du texte. Donc on pourrait aller dans ce sens-là, la reprise qui nous fait passer dans le vide. Et on pourrait dire tout simplement, et on le dit souvent d'ailleurs, que c'est une façon de faire encore vibrer notre imaginaire. Mais surtout, je crois, on a aussi un effet rétroactif du « comme si ». Qui jette le trouble sur son propre statut. S'agit-il d'une pensée du personnage, d'un commentaire du narrateur ou les deux ? En cela, l'épilogue, comme toute limite, non pas tient lieu de fin, il ne l'arrête pas, il ne la circonscrit pas, il ne la fixe pas, mais il donne lieu à la fin, il crée un espace, et un espace littéraire qui met en branle le dedans et le dehors, l'intériorité et l'extériorité, le propre et l'impropre, et ce serait une autre façon de parler du va-et-vient, du retentissement. Et je m'arrête ici.